vraiment quelque chose.
Et tellement que moi, il fallait y aller.
Au-dessus de Marc-Andela, donc, je vous rappelle que, au-dessus de l'article 270 du Code électoral, donc, il y avait des procédures en placement de marque, et par ordre du tableau, c'est Madame Christine Hugues, donc, qui nous rejoint. Je sais qu'elle aurait préféré venir dans d'autres conditions. Malheureusement, la vie est ce qu'elle est, je ne vais pas revenir sur la situation, donc Christine, bienvenue, même si ce bienvenu, je le sais que toi-même tu t'es posé des questions, donc tâche. Donc là, j'ai rien de plus à vous informer, si ce n'est donc le conseil est redevenu complet. Point numéro 2. A priori, je sais que les membres de Démocratie Grand Corps se sont renseignés. Je vais bien donner la précision. J'ai été saisi en début d'année par un agent de la mairie de faits qui pouvaient s'avérer être graves de par des relations avec sa hiérarchie, compte tenu de ces faits qui pouvaient être graves. Et sur conseil donc de notre directeur général des services et de conseil juridique, j'ai lancé une procédure administrative, qui est une procédure très encadrée, très calée, sur laquelle je reviens pas, que je vous avais donc informé. J'ai reçu en présence des deux, pas syndicats, mais deux groupes qui étaient candidats aux élections du personnel.
Des deux têtes de liste
des élections paritaires, du DG et de Brevel, donc tous les quatre. On a reçu l'ensemble des intéressés, témoins divers et variés, sur à peu près plus de 20 heures d'interviews, qui ont toutes été enregistrées, tapées, envoyées aux belligérants, etc., etc. La procédure a duré plus d'un mois. Cette procédure, compte tenu que malheureusement, c'est la première fois qu'on l'a, et ne voulant pas prendre des positions, je dirais décalé, soit trop excessive, soit pas assez par rapport aux fautes qui auraient pu être calées, j'ai souhaité être conseillé par le service juridique qui connaît tel type de faute à Dunkerque ou dans le village de Haute-Savoie, je ne sais pas quoi, à quoi ça correspond, honnêtement, je ne sais pas. Donc ça a permis d'établir un rapport qui est la commission d'enquête administrative, que vous pouvez consulter, tous, comme je vous l'ai dit, qui est à disposition, qui n'est pas diffusable, pardon, vous la consultez, mais je ne peux pas l'envoyer, vous consultez le dossier, vous n'avez pas le droit de faire des photocopies, c'est un peu comme un acte de droit, hein, c'est un acte de droit d'ailleurs. Suite à ça, notre conseil a estimé qu'un des agents pouvait avoir une sanction qui dépasse la sanction que je peux prendre sans avis de la CAP. Il est donc nécessaire de demander l'avis à la CAP, de proposer une sanction à la CAP, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, étant entendu qu'à la suite à l'avis de la CAP, je peux prendre la sanction équivalente de la CAP, une sanction en dessous de la CAP, mais je ne peux pas prendre une sanction en dessus. Mais là également, n'ayant aucune référence de quel niveau de sanction c'est, j'ai donc souhaité que ce soit un conseil spécialisé dans ce genre de face qui me fasse une proposition au niveau de jurisprudence pour écrire à la CAP et lui dire bon, ça, on demande telle et telle sanction. Ce que on vous demande donc, ce que je vous demande là, donc, c'est la désignation d'un avocat d'instance disciplinaire, pas pour prendre une sanction disciplinaire, mais pour me conseiller sur la sanction disciplinaire à demander à la CAP pour qu'elle soit à peu près conforme aux jurisprudences nationales. Parce que je me suis à peu près exprimé. Ça te dit que l'affaire n'est pas simple. Voilà. Parce que j'ai aucune référence, moi, pour savoir si telle action nécessite un mois, six mois, licenciement à vie, et j'ai rien, je suis incapable de vous dire à quoi ça correspond. Nous, c'est quand même.
Tout à l'heure, en commençant, vous avez dit qu'on est déjà passé, que la municipalité est déjà passée par la côté juridique. C'est celui du SAM, je présume? ou pas?
Non, 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 l'avocat. Non, non, l'avocat.
On est déjà passé par un avocat. On a déjà consulté un avocat.
J'ai consulté un avocat pour établir le rapport et prendre en compte les éléments du rapport, parce que là, dans la synthèse qu'il faut envoyer à la CAP, il doit y avoir à peu près 150 pages dactylographiées des 20 heures d'entretien. Et si vous envoyez 150 pages à la CAP, à mon avis, donc l'avocat nous a proposé une synthèse de ces 150 pages.
Pas celui-là, celui qui serait...
Celui-là, oui. Et là, ça, c'est pour la proposition de la CAP.
C'est juste pour ce cadre. Donc, toute la démarche qui a été faite jusqu'à présent, elle a été faite sur, par la municipalité, quoi.
Parce que oui, mais je suis responsable. Je vous rappelle que quand il y a, suivant la lettre, donc si je suis saisi, il m'a traité de con, excusez-moi. Bon, quand il y a une lettre qui a un niveau de. Si, non, mais je ne peux pas, je suis obligé de mettre en route une procédure. Je ne peux pas juger, moi. Je ne peux pas juger. Et si je ne le fais pas, et que. On va exagérer volontairement. Vous voyez ce qui se passe à France Télécom. Bon, la direction, les problèmes entre personnel, hiérarchie et tout le bazar. Imaginez que des agents, qui s'estiment harcelés ou quoi, fassent une bêtise, fassent un truc, mais saisissent que je ne fasse rien, fassent une bêtise. Nous sommes tous les deux responsables. Tous les deux.
C'est quoi le problème de participer, de faire ou de ne pas faire? Le problème, c'est que toute l'enquête a été faite sans le conseil d'un avocat. Si je comprends
bien,
si, quand même. Allez-y, parce que c'est très administratif.
Je crois deviner votre interrogation finale, donc on va commencer par la fin. Il y a donc une procédure qui est menée par l'autorité territoriale, qui a un certain stade, en l'occurrence au stade des conclusions, parce que quand il y a enquête, il faut bien conclure à un moment donné, requiert donc l'assistance d'un conseil qui, à ce stade-là, ne nécessite pas de délibération parce qu'il n'y a pas représentation de la commune. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, donc, il y a une suite disciplinaire qui est donnée, qui nécessite donc l'avis du conseil de discipline, lequel conseil de discipline est une instance, dans laquelle, si l'autorité territoriale souhaite être assistée d'un conseil, le dit conseil doit avoir un mandat pour siéger. Hein, sinon, il va arriver à l'instance, on va lui dire à quel titre vous venez là. Donc, le but de la présente délibération est de mandater le conseil pour siéger en compagnie de la commune le jour de l'instance disciplinaire. Point.
D'accord.
L'avocat peut être intervenu avant, un autre, un différent, ou pas du tout. Et un avocat peut intervenir après, un autre, ou le même, ça dépend, en termes de
contentieux éventuel. Je me suis fait, dans le rapport, je me suis fait causer. Par le juridique, voilà. Je suis totalement incompétent pour faire une synthèse administrative de 150 pages, je l'avoue, je ne suis pas capable.
D'accord.
Je suis pas capable.
Après, est-ce que vous, là, peut-être pas le lieu, je ne sais pas, on peut savoir ce qui a été proposé, pourquoi il faut consulter ou pas, ou il faut commencer là-haut,
non. Que ce soit. Non, on a. Non.
Il y a le dossier qui est consultable par tout le conseil municipal.
Vous avez 8 jours, la preuve, c'est que Mme Charbonnier est venu s'en renseigner.
Pas 8 jours pour poser des questions.
Mais oui.
Il n'y a pas de.
Éric, ne tourne pas autour du pot. Tu m'as parlé de cette affaire il y a 6 mois. Tu m'as téléphoné, donc tu le sais. Et tu sais parfaitement la procédure.
Je crois que c'est M. Rousse-Massa, après avoir parlé.
Oui, mais le conseil municipal, nous avons 8 jours. 5 jours.
Mardi.
Oui.
Oui, quoi qu'il se soit passé,
oui.
On ne remet pas en cause la démarche, pas du tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là, ce qui me semble bizarre, c'est que maintenant on prend un avocat, alors qu'on aurait pu le faire avant pour être sûr que ce
soit. Mais non, on ne pouvait pas, voilà. Pour la bonne et simple raison que je n'avais pas les conclusions de l'enquête,
et que je ne sais pas. C'était dans une sacrée troisième groupe alors.
Mais parce que notre avocat, en fonction des résultats de l'enquête, quand on a eu le témoignage de X, qui a dit qu'un tel avait diffamé machin, quand on a eu le document, la photocopie Y, qui était un faux, pas un faux, je dis n'importe quoi, quand on a eu, etc., on est arrivé fin août, et c'est là, quand on a eu la totalité des pièces, c'est un peu comme si dans un procès, avant qu'il y ait la totalité des pièces qui soient trouvées, on considère de savoir si le gars est coupable ou pas coupable. Bon, il faut qu'on ait les pièces, et les pièces, on les a que fin août. C'est fin août, quand on a eu la totalité des pièces, que j'ai vu, d'ailleurs, le décalage complet entre l'idée que j'avais de l'affaire et la réalité avec ce témoignage, tout ça, et qu'on s'est aperçu que c'est une chose qui est assez grave. Et que l'avocat nous a dit effectivement que c'est grave, et que là, on s'est rendu compte, au dépôt de l'ensemble des pièces, qu'on était dans une sanction qui pouvait être une sanction à la CAP. Mais avant de faire l'enquête, comment je pouvais savoir, moi, qu'un tel il avait diffamé, qu'un tel il avait fait des faux, qu'un tel il n'avait pas dit la vérité, qu'un tel. Je ne le savais pas. Et l'enquête s'est finie en juillet. Donc je ne pouvais pas savoir quel était le niveau de la sanction. Puisque. Non, non, mais c'est pas embêté.
Il y a sur les deux protagonistes, qui est en passe du pouvoir.
Oui, exact. Puisque la conclusion de l'enquête définit qu'en fait, il y en a un qui a subi les conséquences de l'autre. Vous avez qu'à consulter l'enquête, vous verrez. Quand il y a de l'autre, vous consultez. On a les quatre auditeurs, je dirais. On a d'ailleurs à chaque audition, ça me faisait dans le fauteuil parce qu'on était vraiment surpris. Voilà. Mais ça, moi, je ne pouvais pas le savoir avant. je savais pas ce que les gens allaient venir déclarer quand je les recevais. Sachant qu'à part les deux protagonistes, tous les autres ont été auditionnés de manière sur leur demande. Tous ont décidé de venir être auditionnés. Et là, je ne pouvais pas savoir ce qu'ils allaient mettre.
Moi, je voudrais dire qu'il y a deux phases dans cette histoire. Il y a une phase purement hiérarchique, où le supérieur hiérarchique entend, écoute et essaie de mêler les choses. Mais ensuite, quand ça va passer à un autre stade, qui peut être un stade juridique, à ce moment-là, il faut le conseil d'un quelqu'un de compétence.
C'est-à-dire que là, devant la CAP, il faut... Moi, je ne suis pas capable d'aller plaider le dossier devant la CAP. Je ne suis vraiment pas capable d'aller demander ça. Je ne sais pas. Je suppose que les avocats qu'on a autour de la table, si tu as volé un œuf, c'est une sanction. Si tu as volé un œuf, c'est l'autre. Si tu as écrasé quelqu'un, c'est truc. Si tu as assassiné quel autre. Mais moi, je ne connais pas le niveau de sanction. Hein. Et on ne peut les connaître que quand on a le résultat de l'enquête. Hein. À quel niveau ça va se situer.
Que j'ai pas pensé.
Voilà.
Juste une petite précision. Parce qu'apparemment, le problème autour, c'est un problème relationnel, c'est ça?
Je ne peux pas évoquer plus que même consulter le document. Je peux pas. Il y a des éléments que je ne peux pas rendre au public. Je veux dire, venez consulter le dossier. Voilà. Parce que vous pouvez le consulter, vous ne pouvez pas en avoir une copie, vous pouvez le consulter. Voilà. Et je vous rappelle que les deux protagonistes peuvent également engager mutuellement une procédure pénale l'un contre l'autre. Et on est obligé de leur payer un avocat. C'est nous qui payons l'avocat de l'un et de l'autre. C'est la loi. Voilà. Mais ça, c'est leur problème à eux. Moi, je gère le problème de ne pas avoir la responsabilité d'avoir un des deux qui fait une connerie ou qui, etc. Parce qu'on m'a mis dans une situation de... Voilà. Au-delà de l'aspect purement conseil municipal, tu connais parfaitement puisque tu m'as évoqué ça dès le début de l'affaire. Voilà.
C'est le résultat
de
l'enquête.
Mais je ne peux pas vous en donner des mains autour de cette table.
La vocation du conseil municipal, c'est pas de conclure l'enquête, ça serait illégal.
Moi, je souhaite, pour ne pas être perçu comme étant de parti pris dans cette affaire, je souhaite un conseil, c'est vrai que j'ai besoin d'un avocat, qui me dise dans la France entière, la moyenne pour ce type de délit, entre guillemets, c'est telle sanction. De manière à ce que je demande à la CAP la sanction qui correspond à ce délit. Moi, je suis totalement incapable de définir le niveau. Totalement incapable. C'est vrai que je donne un conseil, un conseil, un avocat.
Je rappelle que les immigrations sont de voter sur leur côté, ils doivent se faire assister ou pas. Ça reste ça, ils vont insister, ils disent ce qu'ils disent, ils s'agissent. L'avocat prenne la place de la mère, ou que l'avocat vienne dirigeant d'une procédure quelconque.
Mais apparemment, les responsabilités sont dans
la. Non, mais je m'excuse, mais ce qu'on doit juger, il y a lieu ce genre de délibérer, de désigner, non. Y a-t-il lieu, il y a désigné un avocat pour assister.
Moi, je me refuse à définir moi, parce que je n'ai pas la compétence, puisque ça peut. Et même si j'en avais la compétence, je ne le ferais pas, parce que ça pourrait être interprété comme une choix personnel, et je veux que ce soit calé par, en me disant, dans la France, à dire, c'était le niveau, des trucs comme en pénal ou quoi, il y a des règles en disant, tant que c'est 10 ans de prison, c'est je ne sais pas quoi, bon, voilà, je veux que ça corresponde à ce qui se passe dans la France, à dire, pour une même faute. Voilà. Donc, qui contre, qui s'abstient, 1, 2, 3, 4, 5.
Je vote pas. Moi, je ne vote pas.
Ne participe pas au vote.
Je m'abstiens.
Et tu t'abstiens. Alors, modification des commissions d'études. Alors, suite à donc à l'arrivée de Christine, ça posera d'ailleurs un problème que vous avez connu. L'opposition municipale pour le CCAS, faudra qu'on refasse une liste, etc., etc., puisque Christine qui était dans les personnalités va rentrer à titre de conseil. Il faudra donc refaire la liste du conseil comme on l'avait fait pour Mme Langeron et Mme Charbonnier, mais ça on le fera plus tard. Là, je vous propose donc de désigner Mme Petitlieu pour siéger au sein des commissions Affaires sociales, Solidarité, Travaux, Agriculture, Sécurité et Tranquillité publique. Pas de problème ? Contre, abstention, unanimité. Merci. Alors, dans la foulée du remplacement de Marc, je vous propose que Christine Hugues, ou s'il y a donc, quelqu'un d'autre dans la majorité, puisque c'est un poste de la majorité, que Christine prenne également le poste de Marc comme suppléant de Marc Royer. Alors, officiellement, nous devons voter à bulletin secret. Vous avez des bulletins secrets, donc, ce que je considère que le dépouillement fait que l'unanimité, Mme Christine Hugues, a été élue au premier tour, remplacement de Marc Amela. Nous avons dépouillé tous les bulletins et comme secrétaire, Monsieur Eric Amler. Merci. Ça fait gagner du temps. Comme on l'avait fait pour vous. Comme on le fera tout à l'heure, Alors, la commission de CCAS, j'y arrive. Donc, je vous propose de reconduire la même liste en telle qu'elle était, dans le même ordre, mais en mettant Christine en remplacement de Marc. Qu'on a le même résultat qu'il y avait eu pour vous.
Le dépouillement donnait les mêmes résultats.
Le dépouillement donnait les mêmes résultats avec le même secrétaire, les mêmes trésors, enfin, le même patron de trésorerie, les mêmes secrétaires de séance. Je vous propose donc que M. Eric Amler et M. François Pandolfi qui ont dépouillé. Ok.
Merci pour votre travail.
Merci. Alors, le point numéro 6, suite à un problème technique, je vous propose de le retirer. Je le représenterai éventuellement le mois prochain ou pas. Ça dépendra des conclusions de notre avocat. Donc, retiré. Point numéro 7.
Est-ce que je pouvais faire une suggestion?
Oui.
Dans la prochaine convocation, au prochain conseil, en fait, au conseil, où ce point apparaît, est-ce qu'on pourra avoir les documents?
Votre président de groupe peut les consulter, puisqu'il avait été dit qu'on ne faisait pas toute une série de copies, qu'on consultait. Vous ne parlez pas des documents joints?
Si, le document qui est joint, en principe, au chef de groupe.
Qu'est-ce que vous n'avez pas eu?
Il y a déjà le compromis de vote, c'est le brouillon, il y a tout est en plan, absolument rien de signé, donc je ne sais pas ce qu'il y a en fait dans l'année.
Et je ne peux pas le signer, il n'est pas voté.
Je pense que si vous l'avez envoyé signer, ça vous aurait fait hurler à juste titre.
D'autre part, je dis qu'il n'est pas complet.
Il y a des blancs.
Il n'apparaît pas, par exemple, les surfaces construites, non construites,
de toute façon, le dossier est retiré, donc pour la prochaine fois, si la prochaine fois, vous le transmettrez. Le dossier est retiré, M. Alonso, dont le débat est clos. Le dossier est retiré. Point 7, je vous propose donc une motion de soutien à la charte des services publics. Donc, dans le cadre, alors je le précise également d'une manière très claire, comme j'ai eu déjà l'occasion de le préciser, c'est un combat global que mène Michel Vauzelle au niveau de la région qu'il a lancé, que le massacre des services publics remonte à 25 ans et comporte tous les gouvernements qu'il y a eu et tous les partis politiques qui ont géré ces gouvernements. J'ai reprécisé que je n'avais pas voté Maastricht en 91 parce qu'il était totalement inscrit dans Maastricht la dévolution des services publics. C'est la raison pour laquelle, en tant que député, je n'avais pas voté Maastricht. Donc, bien sûr, quand le président de la région argumente là-dessus, je pense que, a priori, que tous êtes d'accord, que même si la France est une particularité européenne, le fait de pouvoir avoir l'électricité, le téléphone, etc., etc., dans tous les coins du territoire au même prix, est quelque chose qui est plutôt une richesse pour notre pays, et nivelé par le bas, ne semble pas une bonne chose, pour faire au coup. Voilà. Je vous propose donc de soutenir la motion qu'a lancé Michel Vauzelle et la pétition qu'il a lancée, étant entendu que chaque conseiller municipal peut la signer à titre individuel à partir du vote de cette motion, si vous êtes d'accord. Y a-t-il des prises de parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Je considère qu'à l'unanimité, nous défendons le service public. Je vous en remercie pour eux. Alors, comme toutes les fois, les divers bâtiments qui changent de les démairies du SAN, donc là il s'agit de station de pompage à Ontrossin et d'un immeuble 17 Eugène Pelletan à Miramas, autant que je me souvienne. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Régis d'avance, Socrate, Monsieur Ruiz.
Oui, il s'agit de mettre fin à une régie d'avance en décembre 2005, afin de permettre à une personne de participer au programme Comunus, avec des prix de régie d'avance. Le programme est arrivé à son terme. Il n'y a plus donc lieu d'avoir une régie d'avance. Et je demande de vous annoncer qu'on serait pour la suppression de cette régie d'avance, puisque le programme est terminé.
Des questions?
Il n'est pas prévu de reconnaître l'expérience, pas connu sur autre chose, mais
non,
là,
c'est une opération spécifique.
Ça ne dépend pas de la commune, c'est une décision nationale et européenne.
J'entends
bien. Ouais, ouais,
je
suis
incapable
de
vous répondre.
Donc, sur la suppression de cette régie d'avance, question, il n'y en a pas qui contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Point 10, M. Bartoli, station de concession au cimetière communal. Station de concession au cimetière communal.
Pardon, ça c'est en très étroit concession. Vous savez qu'on se trouve un peu à l'étroit dans le nouveau cimetière et dans l'ancien aussi. Donc on suit notre politique qu'on avait commencé il y a quelques années, à savoir on reprend les terres communes et on les transforme en concession nouvelle. Donc là, il s'agit de finir les concessions qui ont été distribuées derrière le monument aux morts et de prendre une terre commune qui se trouve un peu plus loin, la transformer en concession. Ça nous en fait 23. Je vous signale, ça me permet de vous expliquer un peu la politique qu'on avait suivie et qu'on avait engagée auparavant, à savoir que on met à disposition des gens des caveaux poussés. Tout est installé, soit un dépôt vente, c'est-à-dire que ça ne grave pas le budget de la commune. Par contre, les gens peuvent trouver le caveau à moindre prix, parce que le prix a été négocié, et sans frais de transport, puisque tout a été transporté et tout a été installé. Néanmoins, on garde quand même quelques concessions libres, de façon à ce que les gens qui ne voudraient pas utiliser ces caveaux puissent le faire. Ensuite, autre chose, il avait couru un bruit parce qu'on avait pris les premières concessions. C'est vrai qu'on avait supprimé quelques monuments, hein, il y avait des pierres tombales ou des bordures là, et qu'on avait mis ça à la déchetterie. Donc certains avaient dit, des esprits peut-être mal intentionnés, je ne sais pas, hein, Bartoli, en retour à la poubelle, quoi, les ossements, etc. Bon, je suis peut-être un esprit simple à l'intelligence réduite, mais je suis quand même respectueux des choses. Et je vous dis que conformément au respect de certaines croyances, les croix qui sont des symboles religieux importants n'ont pas été jetés, mais ont été enterrés. Et ensuite, les ossements qui, normalement, ont fait obligation, les ossements qui sont retirés, ça peut être au bout de 5 ans dans les terres communes, ça, ça a été au bout de 20 ou 30 ans, hein. La loi nous fait obligation de mettre ça dans un ossuaire. Nous ne l'avons pas, nous n'avons pas mis dans un ossuaire. J'avais décidé que ces ossements seraient mis dans des boîtes, au nom, marqué au nom de la famille, de façon à ce que si la famille voulait quand même les récupérer, elle le pouvait. Et ils ont été mis dans une des chapelles qui se trouve à gauche à l'entrant, une des plus belles chapelles du cimetière. Elles sont inhumées là. Voilà. Et pas dans la déchetterie.
Monsieur Bartoli en a profité pour s'expliquer sur les lits. Et la délibération porte sur la création de 23 concessions perpétuelles.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 23 concessions qui sont reprises dans les mêmes termes, hein, et avec le même respect des morts.
Voilà.
Quand vous avez dit que le monsieur prépare la déchetterie, c'est faux.
Est-ce que ça entraîne aussi la réduction de la
réponse là?
Non, non, non.
Le fait de créer cela.
Là, il n'y a pas de tombe. On est inter au gouvernement. Voilà, donc alors, Gérard avait depuis longtemps envie de s'expliquer sur ce sujet, et j'en reviens au point essentiel de la délibération, c'est la création des 23 concessions dans la partie arrière du monument au bord. D'autres questions ou des compléments d'information? Il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Alors, un remboursement pour le laboratoire Bruni, M. Ruiz.
Oui, effectivement, nous avons accepté un remboursement de 88 euros du laboratoire Bruni. C'est une affaire assez complexe. Un agent d'entretien, d'investissement, Bruno, avait eu au départ un accident de travail. On avait été classé un accident de travail. Et ensuite, donc, la commission de réforme a transformé l'accident de travail en maladie ordinaire. Notre assureur avait donc réglé la somme et il s'est retourné contre nous pour demander le remboursement de la somme de 88 euros. Les services de la commune se sont retournés vers la CPRM qui a effectué un remboursement de 88,20 euros, mais l'a envoyé à Laboratoire de Ligne qui, lui, nous le renvoie. Donc, acceptez les 88 euros.
Des questions sur cette affaire simple pour 88 euros? Vous pouvez ne pas en avoir, je reviens parce que... Donc, vous acceptez les 88 euros sans plus d'explication. Contre, qui s'abstient. Voilà, nous avons une question de 88 euros. Quelque chose qui fait également beaucoup discuter, l'institution d'une participation sur les déjections canines. Car si on entend parfois, d'une manière non désinvolte, que certains trottoirs de Grance sont sales, c'est que nous avons certains grands soins qui le sont, car les trottoirs tout seuls ne deviennent pas sales, et les chiens chez eux ne vont pas sur les trottoirs. À partir de là, donc, Madame Lebeau, vous avez la parole.
Je ne sais pas si tu n'as pas tout dit, la souris. Oui, je vous rappelle les efforts entrepris par la commune en matière de reproduction urbaine, la balayeuse, les moyens humains, renforcés de l'eau, etc., tout ce que vous avez vu. Et malheureusement, les efforts sont complètement anéantis par le comportement peu respectueux de l'environnement de certains. Donc, en ce qui concerne les déjections canines, des dispositions du code pénal, du code de la voie routière, du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental existent. Parallèlement aux procédures qui seront diligentées en application de ces divers textes par un officier de la police judiciaire, il est proposé à ce jour d'instituer une participation forfaitaire de 20 euros à l'encontre des auteurs de ces incivilités, compte tenu des coûts engendrés par l'enlèvement, c'est ce que coûte l'enlèvement des déjections canines par les services municipaux, et selon le principe du pollueur-payeur. Voilà. Donc, je vous demande à trouver la participation financière de 20 euros à l'ensemble de toute personne qui aura la garde d'un animal et dont la déjection sera laissée sur le domaine public. Je rappelle que des sachets ont été aussi disposés sur tout le domaine public, et qu'à ce jour, beaucoup ne s'en servent pas pour ramasser les crottes de leurs chiens. Je rajouterai que vous verrez très prochainement dans le journal Multibar, donc cette affiche, donc il y aura une campagne publicitaire, si on peut dire, affichée un petit peu partout dans le village de Grance, pour que les gens se sentent concernés, qu'effectivement, tant que les chiens sont pas capables de le prendre, c'est à eux de ramasser.
La police municipale, oui, sachant que ça pose des problèmes juridiques un peu compliqués, mais qu'il faut marquer le coup, et que je dirais que la réunion sur l'agenda 21 qu'a fait Gérard et sur l'ensemble des papiers qu'on a eus, sur les 62 personnes, il y avait au moins 10 papiers dans le négatif, c'était la saleté des trottoirs et des trucs. C'est quelque chose qui était assez. Qui a priori, bon, on avait déjà commencé à en parler, mais. C'est comme l'air.
Mais la différence entre une participation financière et une procédure, c'est quoi? Là, on va pouvoir le faire, les gardes vont pouvoir vraiment le faire, ou alors c'est symbolique et...
Non, c'est quelque chose qui est Oui, oui, bien sûr. Si c'est un peu délibéré, pourquoi?
Mais alors, il y a une différence entre une procédure verbale ou quoi?
Oui, alors. Non, mais c'est tout complexe.
Un procès verbal, donc on utilise les dispositions de texte réglementaire, le code pénal, le code de la santé publique, etc., hein, qui dit que c'est une infraction et qui fixe un maximum hein, d'amende. Donc ça ne fait pas partie des amendes qu'après un officier de police judiciaire constate hein, par le carnet, là, un terme amende. Ça fait partie d'un rapport qui est transmis ensuite à l'officier du ministère public. Et là, c'est une participation aux frais. Qui vient en complément, qui est donc la contrepartie du coût engendré pour les services communaux de l'enlèvement de déjection sur le domaine public.
C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de récupérer 20 euros, c'est sensibiliser et marquer le coup, ouais, il n'y a pas les 20 euros.
On va l'imposer légalement aussi.
Si.
Légalement.
Si.
L'amende.
Si. Ah oui, c'est une libération du conseil municipal exécutoire.
Ben, je veux dire, il faut avancer dans la mesure où on connaît quelques. Parce que ça se borne à une douzaine ou une quinzaine de cas dans le village, je veux dire, c'est plus possible.
Si je n'arrive
pas à faire. Bah, c'est un plus, je vous dis pas que ça va être très facile, mais bon, c'est un plus. Donc, il y a d'autres questions. Qui est contre ? Qui s'abstient étant entendu que Mme Mollard est de nous rejoindre et que donc Madame Monsieur Ruiz a perdu le bénéfice de la procuration. Donc qui contre, qui s'abstient et l'unanimité. J'ai à vous proposer, si vous en êtes d'accord, une délibération supplémentaire. Je sais qu'y compris la majorité municipale s'est posé la question sur le bien fondé de cette délibération complémentaire, parce que nos agents, quand même, qui travaillent dans la fonction publique, devraient savoir qu'on ne peut pas verser des subventions comme ça et que ça nécessite des délibérations, etc., etc. Mais vous savez que depuis 5 ans, avec l'ASEA, on participe avec le personnel communal, l'amical, à des cotisations sociales, etc., etc., etc. Que le montant de la subvention et le montant de la cotisation par le nombre d'agents, qu'ils savaient en début d'année qu'ils allaient avoir une augmentation de cotisation mais qu'ils ne connaissaient pas le montant exact, qu'ils avaient donc demandé 24 000 euros et que la commission, à juste titre, n'ayant pas de justificatif, a revoté les 20 000 euros, mais la facture réelle est bien de 24 000 euros. Et on se trouve à la subvention où ils sont quasiment en cessation de paiement. Donc si on ne verse pas les 4 000 euros supplémentaires, ce que vous pouvez faire, parce que à la fois vous n'avez pas envie, ou parce que le dossier est fait à l'arrache, il y aura quelques difficultés pour eux, mais à voir. Je vous propose donc ces 4 000 euros supplémentaires. Cela impose en plus une convention, mais qui me range bien, une convention à signer entre l'amicale du personnel et la mairie, puisqu'on dépasse les 23 000 euros légaux, qui obligera donc l'amicale du personnel à nous fournir un bilan, des justificatifs, etc., etc., comme c'est le cadre de ce genre de convention, au-delà de 23 000 euros. Et je vous propose également de demander à M. Roussy mettre à ma signature une lettre leur disant, si vous en êtes d'accord, de voter cette subvention, que c'est à titre tout à fait exceptionnel et que l'année prochaine, il serait peut-être utile qu'ils s'y prennent à temps et qu'ils fassent leurs calculs avant et qu'on ne mette pas une situation de rajouter un conseil municipal de délibération à l'arrache. Voilà.
Cette mutation, c'est pourquoi ?
Ben, parce que la principale augmentation de leur rapport personnel, c'est le NASEA qui a augmenté, c'est tout. Comme tout à part. Donc, comme beaucoup de mutuelles, de diverses et variées, bon, les cotisations, et comme ils se trouvent à la fin de l'année est
obligatoire.
Voilà. Et c'est obligatoire, je ne sais pas. Mais non, tout simplement, nous appliquons la loi. Nous étions en dessous de 23 000 euros, puisque la situation était à 20 000. La convention n'était pas obligatoire. Comme 20 et 4, ça fait 24, on est au-dessus de 23. J'en profite en même temps pour signer une convention les obligeant à nous fournir des documents, ce qui n'était pas obligatoire en dessous de 23 000. Voilà. Y a-t-il des questions ? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord de prendre cette délibération de la rajouter ? Pas d'opposition. Et est-ce que vous êtes d'accord de verser les 4 000 euros ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? l'indignité, et donc la convention y afférente justifiable. Au-delà des décisions du maire que vous avez, j'ai une information à vous donner. Nous avons eu en appel nos deux dossiers dans l'affaire Gaigne. Au-delà de particularités de ces deux dossiers, je vous rappelle, le premier, c'était le refus du permis, puis après le second, c'était l'astreinte. Ne me demandez pas pour quelle raison. Nous avons gagné le dossier en appel, le premier, qui cassait le premier permis de construire. C'est-à-dire que si le tribunal administratif avait été conforme à la décision de l'appel, alors c'est vrai que les époux Gaigne peuvent faire appel
pour pouvoir en cassation.
Pouvoir en cassation, à part que le pouvoir en cassation n'est pas suspensif, qu'il faut qu'il soit accepté par la commission de cassation si le dossier est volontaire. Donc si le tribunal administratif avait été conforme à notre appel, il n'y aurait pas eu d'affaire Gaigne et il n'y aurait pas eu de permis de construire Gaigne. Ce qui veut dire que toutes les procédures qui s'en suivent n'auraient pas existé. Pour des raisons dont la justice a le seul secret, le deuxième appel du permis de construire qui suit le premier, qui m'obligeait à signer le permis de construire par obligation du tribunal, celui-là, il n'a pas été cassé. Donc nos avocats sont en train de mettre en route la procédure pour dire que le deuxième permis est nul et non avenu, pour bonne raison que si le permis, le premier, n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu le second et l'obligation du second. Voilà. Alors on est rentré dans les opérations. Donc, le premier en appel du permis est reconduit et nous allons, en tous les cas, je vais, au nom de la réglementation destinée en justice, aller en cassation sur le deuxième appel pour gagner la totalité des opérations en appel telles que nous l'avons faite. Cette cassation n'est qu'à pas 5 ans. Je ne sais pas si les époux Gaigne iront en cassation sur la première affaire qu'ils ont perdue et qui réinstaure le premier refus de permis de construire. Ça, je ne peux pas vous répondre, j'ai observé. Donc je suis très satisfait d'avoir mené cette opération et d'avoir fait appel. Nous revenons dans une situation plus réglementaire, même si juridiquement on n'en est pas encore sorti, mais c'est petit à petit les choses avancent et je suis très heureux, comme je l'ai dit dans d'autres instances, de perdre régulièrement des procès au tribunal administratif, mais de les gagner en appel, c'est quand même en appel que ça compte.
Voilà.
Elle n'est plus astreinte. Elle a été payée, etc. On va aller en cassation pour se faire rembourser les astreintes. Oui, mais on va en cassation. On va voir. Et dans la mesure où le tribunal en appel ne justifie le non-refus du non-permis que par un seul argument, on se parle des arguments juridiques, qui était la charte du CHAMP, que tous les autres entendus n'ont pas été relevés, nos conseils juridiques ont bon espoir que nous gagnions en cassation. Qui verra, verra. Mais je pense que tous les défenseurs des terres agricoles et de l'environnement seront très heureux qu'on ne puisse pas construire dans n'importe quelle condition et n'importe comment en zone agricole.
Sur 53 mètres carrés, ça n'est pas un gros problème pour moi, pour l'environnement, non.
Pour moi, il n'y a pas de problème de surface, il y a de problème de principe. Je peux également vous informer donc que j'ai été amené à faire une conférence de presse précisant que les communes de Salon et de Drance travaillent sur le plan économique ensemble et que nous allons donc avoir avec l'Agropole et avec Ouest-Provence, au-delà des communes de Salon et des communes de Drance, continuer nos réunions de travail pour que la zone des Gadelins, des Palins et de la Gandonne se développe. Et je me permets de me faire trois interrogations et de poser trois questions. Alors je ne sais pas à qui. Je ne sais pas si c'est le journaliste de la Marseillaise. Je ne sais pas si c'est au représentant de Démocratie Drançoise, parti apolitique, indépendant, de toute religieuse, ou au représentant du Parti communiste qui s'est retrouvé des ailes de communistes, cégétistes, faisant des pétitions, etc. Car lorsque je lis l'article du journaliste, mais je ne veux pas penser que intellectuellement, M. Kamler, vous soyez différent quand vous êtes journaliste, communiste ou démocratie françoise, je m'interroge sur Vidal Tonon, je t'aime moi non plus, car je ne comprends pas, et vous allez m'en donner l'explication. Comment vous trouvez très intéressant que Jean Casino reste à Salon pour développer la taxe foncière de la ville de Salon, mais que ça n'a aucun intérêt pour Grand. Or, Salon a déjà la taxe foncière, Grand serait une taxe foncière en plus. Donc là, je me demande, je me suis posé la question d'ailleurs, peut-être que M. Kamler va nous faire l'annonce qu'il ne va plus être candidat en 2014 à Grand, mais qu'il va être candidat à Salon, et que donc il défend les Salonnais, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, contre l'intérêt de la ville de Grand. Et je m'adresse là maintenant aux représentants communistes. Actuellement, le Parti communiste à Marseille lance une grande campagne.
Monsieur Vidal, quand vous l'avez dit,
je dis ce que j'ai à dire. Je dis, donc, je précise, mais je dis ce que j'ai à dire en deuxième municipal. Donc, je précise, mais bien sûr. Oui, ça vous gêne, monsieur. Alors, je m'adresse là aux représentants du Parti communiste qui est en train de mener une campagne à Marseille contre la réforme Balladur Sarkozy des collectivités territoriales, pour la défense de la taxe professionnelle, et quand vous félicitez que la taxe professionnelle n'existe plus. Est-ce que le Parti communiste fait du cinéma en lançant ses pétitions à Marseille, ou est-ce que vous faites n'importe quoi? Alors, comme d'habitude, je m'aperçois que le Parti communiste, Démocratie Grandsoise et le journaliste sont trois personnes différentes, ce qui me déçoit.
Ne soyez pas
la séance est levée.
Était
le non, c'est moi qui l'ai la séance.